RFI.fr.
7 milliards de voisins.
Émission spéciale à Dakar.
Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
7 milliards de voisins, nous sommes à Dakar au Grand Théâtre. Salut les voisins et les voisines. Quel plaisir de vous retrouver. On est partenaire des débats du Monde Afrique pour parler éducation et formation, et plus particulièrement au Sénégal, un pays avec une longue tradition universitaire mais qui peine à absorber sa croissance démographique. En 5 ans, le nombre de bacheliers a augmenté de 61%. Les jeunes veulent faire des études, mais les études ne veulent pas forcément d'eux. Après la crise de juin dernier, partie du campus de Saint-Louis avec la mort d'un étudiant, le calendrier universitaire est une nouvelle fois décalé. De son côté, le secteur privé développe ses écoles, ses clientèles d'étudiants solvables et attire désormais plus d'un tiers des effectifs du pays. Alors ces écoles privées réclament dans le même temps au gouvernement près de 16 milliards de francs CFA de dettes. Ça fait environ 24 millions d'euros pour accepter de scolariser des bacheliers qui n'ont pas de place à l'université. Et c'est donc l'État qui doit payer leurs frais d'inscription dans le privé avec un forfait négocié. Alors l'enseignement privé est-il une bonne réponse à l'explosion démographique? Offre-t-il plus de débouchés professionnels? Ne risque-t-il pas de creuser encore les inégalités avec un système à deux vitesses? Et puis plus largement, à 3 mois de l'élection présidentielle, qu'attendent les jeunes du prochain président pour leurs études? On va en parler avec vous, bien sûr, les étudiants, et avec nos invités. Je vous les présente. Sengan Bodge, bonjour.
Bonjour, Emmanuel. Bonjour, chers auditeurs.
Vous êtes au ministère de l'Enseignement supérieur, le directeur du secteur privé. Vous êtes physicien de formation. Amidou Dia, bonjour.
Bonjour, Emmanuel. Bonjour à mes 7 milliards et demi de voisins.
Amidou Dia, vous êtes sociologue à l'Université Charanta Diop de Dakar et à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD. Marc-François Mignot-Mahon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du groupe Galileo Global Education. C'est un des leaders mondiaux de l'éducation privée dans le monde qui est entré en Afrique par la grande porte en rachetant l'Institut supérieur de management au Sénégal, l'ISM, qui est l'une des plus prestigieuses écoles de commerce fondée par Amadou Diao. Et ils sont venus vous soutenir, les étudiants de l'ISM, entre autres. Quand on s'est parlé au téléphone, je vous ai demandé, est-ce que vous avez un rapport annuel? Toutes les entreprises ont ça. Vous dites, ah ben non, on n'a pas de rapport annuel, on grossit trop vite. Alors vous en êtes où aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est?
Aujourd'hui, on est le numéro 2 mondial de l'enseignement supérieur, avec plus de 100 000 élèves sur 14 pays et 4 continents. Et il y a une affection particulière quand on vient à Dakar, parce que c'est le premier flagship, le drapeau en Afrique, et quelle belle école.
Éric Pignot également avec nous. Bonjour Éric Pignot.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes PDG d'Enco Éducation, que vous avez fondé avec le Camerounais Cyril Gontchou. Groupe de lycées privés dans 7 pays d'Afrique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mozambique, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Mali. Ça fait combien d'élèves au total?
Aujourd'hui, ça fait 2000 élèves depuis 2000. La rentrée scolaire.
Voilà, et ben vous représentez tous les deux les nouveaux entrepreneurs industriels de l'éducation privée en Afrique, bien évidemment. Les étudiants vont peut-être vous interroger, vous interpeller. On en discute avec vous tous.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
On va donner la parole à un auditeur, Mohamed. Bonjour Mohamed. Mohamed, vous êtes infirmier. Vous souhaitez reprendre des études pour progresser dans votre carrière.
Oui.
Et vous n'y parvenez pas. Expliquez-nous.
Bon, en fait, à la base, je suis infirmier d'État. J'ai réussi le concours d'entrée à l'École nationale de développement et par la suite, j'ai réussi au concours de certification nationale. J'ai obtenu une licence en sciences infirmières depuis 2012, et par la suite j'ai pu intégrer le secteur du travail deux ans après.
Et aujourd'hui?
Voilà. Aujourd'hui, ça c'était depuis 2012. Aujourd'hui j'ai voulu m'intégrer pour augmenter mon savoir, augmenter les diplômes. J'ai fait le concours d'entrée au CESAC, donc le master professionnel en sciences de gestion.
Qui est une école payante.
Oui, c'est une école payante, bien sûr.
Pour donner le tarif.
Bon, le master, c'est 1 830 000, à peu près 3 000 euros, quelque chose comme ça, à l'année, quoi.
Et vous, gagnez combien par mois en tant qu'infirmier?
Donc, actuellement, au Sénégal, les infirmiers tournent aux alentours de 180 000 francs net, 175, 180 000 francs net.
Ça fait à peu près 280 euros par mois.
Oui, oui, à peu près.
Ouais.
À peu près.
Donc, vous avez été reçu au concours, qui est un concours difficile, sélectif.
J'ai été le major du concours, en fait.
Vous avez été major du concours du CESAG.
Oui.
Et aujourd'hui?
Bon, étant major du concours, bon, je me disais que vu le montant de la formation, ce serait un peu difficile pour moi de payer. Donc j'ai demandé une bourse. J'ai demandé une bourse au niveau d'une structure qui je pensais pouvoir me financer. Mais malheureusement, ce n'était pas possible.
Pourquoi ce n'est pas possible?
Ah bon, je n'ai
vous
pas...
Vous êtes le major du concours?
Oui, mais lorsque j'ai déposé mon dossier, je n'ai pas été reçu. J'avais commencé les cours, j'ai fait deux, trois semaines de cours. Et ensuite, César nous a dit, bon, étant donné que vous ne pouvez pas payer, donc là, vous ne pouvez plus continuer à suivre les cours.
Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez pris un crédit.
Oui,
mais
oui, oui.
Pour
mais
qui?
Pour ma femme.
Wow.
Pour ma femme. Parce que...
Elle aussi, elle est reçue au CESAG.
Oui, elle est reçue au CESAG.
Parce elle n'est pas majeure puisque c'est vous, mais elle est très brillante aussi.
Oui, à la base, elle ne voulait pas parce qu'elle me dit, elle me disait, non, écoute, tu as réussi, là, il faut y aller.
Aujourd'hui, c'est votre femme qui va bénéficier du crédit, du prêt. Vous allez renoncer au CESAG?
J'ai déjà renoncé.
Vous avez déjà renoncé au CESAG,
oui.
Faute d'argent.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui sur ce sujet-là?
En fait, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'aujourd'hui, je viens à cette émission avec le cœur gros. Parce que hier encore, elle me disait, une à deux semaines après que tu aies arrêté les cours, hier, tout le monde lui demandait, mais où est ton mari, au fait? Parce qu'on est dans la même classe. C'est au bout du premier semestre qu'on nous sépare, au fait. Elle me dit, tout le monde demandait d'après toi, parce que tu animais le cours, c'était très intéressant avec toi, mais c'est vraiment dommage. Elle s'en veut un peu que j'ai payé pour elle. Je m'en sacrifiais pour elle, en fait. Mais je lui dis, bon, tu sais, tu es ma femme, je te dois au moins ça. Mais ça me désole quand même de...
Merci, Mohamed. Je sais que la leçon, c'est que vous commencez à épargner dès maintenant pour votre petite fille de 2 ans. Et on est bien au Sénégal, pas aux États-Unis. Alors, que faut-il en déduire? Amidou Dia, vous êtes sociologue. Quelle lecture vous faites des difficultés du public, de la progression inexorable des études, payantes, y compris d'ailleurs à l'université Charanta Diop, hein?
Merci beaucoup. Alors, j'ai la tentation de dire
à Mohamed,
notre ami, voilà, qu'on a entendu tout à l'heure, et citer en cela un grand philosophe saint-louisien, sénégalais, Mamoussé Diagne, il disait qu'il avait lu dans un ancien traité que si vous avez une femme qui est capable, en l'espace d'une journée, de vous montrer les multiples facettes qu'elle a d'elle-même, vous avez là le pluriel réuni dans le singulier, et donc votre sacrifice, il est valable et courageux, et ne regrettez rien. Effectivement, le privé, c'est maintenant une partie du paysage éducatif sénégalais. Il est très ancien, il faut le dire, parce qu'il est arrivé au Sénégal dans le sillage des grandes religions chrétiennes, musulmanes. Le développement, il a été...
Et la religion des ajustements structurels du milieu des années 90.
Voilà,
également.
Voilà. Vraiment, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à noter un développement du privé, parce que, on avait libéralisé une partie du secteur éducatif. Deux, les grandes conférences internationales qui avaient été tenues au début des années 90, notamment à Jomsien, et qui était engagé dans la mobilisation de tous les enfants qui n'étaient pas à l'école, donc en leur demandant de venir à l'école, on s'est dit que bon, il fallait faire appel aussi au privé pour couvrir ce besoin d'éducation. Alors, si je voulais être caricatural, schématique et rapide, c'est pas de vision. pas de vision claire sur ce que doit être le rôle du privé. Évidemment, moi j'ai l'impression que les pouvoirs publics qui se succèdent depuis un certain nombre de temps, ils font avec le privé, mais ils n'ont pas une vision claire de quelle doit être sa place, parce que ce sont au fond des gens qui sont venus, qui ont occupé un créneau. Un peu, ils se sont imposés par la force des choses, on peut le dire. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a trop d'étudiants au Sénégal?
Non,
11%
du tout,
d'une classe d'âge.
Du tout. Ça, c'est un discours que j'entends souvent, qu'on a trop d'étudiants, que tout le monde ne peut pas aller à l'université. Ça ne correspond pas à la réalité et aux normes internationales.
Pour qu'un pays se développe bien économiquement, il faut plus que 11% d'une classe d'âge qui fait des études supérieures. La question, c'est est-ce que le marché de l'emploi peut, à l'heure actuelle, absorber tous ces étudiants?
Le problème, ce n'est pas l'adéquation des formations. Il y a certes une complémentarité, un effort à faire dans le sens de la professionnalisation. Mais le problème fondamental, il demeure économique. C'est un problème de développement. Si vous n'avez pas un emploi à offrir aux gens, vous pouvez former tout le monde, mais le problème, il va revenir à l'État. Je vous donne un exemple. On dit que l'université publique, par exemple, ne forme pas des gens prêts pour le marché du travail. Mais j'ai envie de dire, allez à la faculté de médecine de l'université de Dakar, mais les gens qui sont formés là-bas, ils sont prêts à travailler, mais ils n'ont pas de travail après, ils ne le trouvent pas. Allez dans les grandes écoles, allez à l'ESP, allez à l'École supérieure polytechnique, allez au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, allez à l'EBAD, l'École des bibliothèques archivistes et documentalistes, allez dans les instituts, ce sont des produits finis qui sont formés, mais après, ils ne trouvent pas du travail. Donc le problème fondamental, il est un problème de développement.
Alors, le problème fondamental, c'est celui-ci. Néanmoins, aujourd'hui, l'État sénégalais essaye absolument d'éponger la demande croissante des étudiants de faire des études. Sengan Bodj, vous êtes au ministère de l'Enseignement supérieur. Vous dirigez un programme qui a été créé en 2013. Les bacheliers n'avaient pas de place à l'université. Et en 5 ans, vous avez placé près de... Enfin, vous, votre programme a placé, le ministère, hein, a placé près de 40 000 étudiants qui ont été orientés dans des écoles privées. Et c'est l'État qui paye le forfait, les frais d'inscription, tarifs négociés.
Oui, c'est des tarifs négociés.
Vous payez combien par tête d'étudiant?
Initialement, le programme a démarré avec 600, donc par étudiant. Donc,
600,
mais après,
600,
600 000 francs, autant pour moi, 600 000 francs donc par,
ouais, aujourd'hui.
Voilà, par étudiant. Mais après, à partir de 2014, vu le nombre croissant donc, de jeunes bacheliers qu'on envoyait donc, dans le privé, l'enveloppe, évidemment, n'était plus en mesure donc, de gérer le flux. On l'a revu à la baisse et porté à 400 000 francs par étudiant. 400
000 CFA, vous donc, payez à peu près 600 euros par an et par étudiant, ouais. C'est-à-dire que c'est un tarif négocié. C'est quoi? C'est le tiers du plein tarif dans une école?
Oui, c'est à peu près le tiers. Hein? Donc ça aussi, ça a été... On salue hein, les premiers, la première vague d'EPS, établissements privés d'enseignement supérieur, qui ont eu donc à porter le programme, l'ont fait surtout par patriotisme. Il fallait donc... régler le problème parce qu'il y avait les bacheliers qui étaient dans la rue, les universités étaient pleines, il fallait trouver une solution.
Aujourd'hui, l'État doit 16 milliards de francs CFA à ces écoles privées qui réclament leur dû, qui disent « vous n'avez pas payé ». Il y a eu des menaces de ne pas scolariser les étudiants, de les renvoyer si l'État ne commençait pas à décaisser.
Oui, il y a eu des menaces tout à fait normales. C'est une question qui est gérée au plus haut niveau. L'État sénégalais est responsable. C'est pourquoi nous avons travaillé avec les acteurs du public comme du privé pour trouver ensemble cette solution. Je pense que d'ici quelques jours, le problème sera réglé. Les acteurs sont prêts à lâcher donc du lest. C'est en Conseil des ministres du 21 février 2013 que Monsieur le Président de la République a dit « Je ne veux plus voir de bacheliers dans les rues de Dakar ».
Est-ce que cette solution est durable pour l'État ?
Oui, en fait...
Que l'État paye écoles privées parce que vous ne pouvez pas absorber le choc démographique.
C'est une parenthèse, elle sera bientôt fermée. Le dispositif mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur est très clair. D'ici une année, 2 ans, l'UVS va monter en puissance. On aura simultanément 40 000 places simultanées.
27 000 à l'heure actuelle.
40 000. D'ici 2 ans, obligatoirement, l'UVS sera à 40 000.
Donc, c'est l'université virtuelle du Sénégal. On étudie à distance, avec plus d'encadrement qu'auparavant, il faut bien le dire, pour les premières années qui ont été difficiles.
Oui,
c'est l'UVS qui va donc, l'université virtuelle, qui va absorber le surplus d'étudiants.
Il n'y a pas que l'UVS. Nous avons aussi le réseau des ISEP.
Les universités en
universités,
région.
Les, voilà, donc ce qu'on appelle les universités, en fait, la troisième génération, qui doivent monter aussi en puissance. Le gouvernement souhaite qu'il y ait en fait un équilibre. C'est-à-dire 50% de bacheliers dans le public, mais 50% aussi de bacheliers dans le privé.
Alors actuellement, c'est moins de la moitié dans le privé. Donc, voilà donc ça veut dire que l'État veut plus de bacheliers, plus d'étudiants, et arriver à un rééquilibrage du secteur public et du secteur privé. Voilà. Ça va être évidemment très favorable au secteur privé. On va bien sûr vous donner la parole, messieurs, sur le secteur privé. Mais Mohamed, l'auditeur qu'on a entendu tout à l'heure, veut réagir. Juste un mot, Mohamed.
Même si les autres universités qui sont en train d'être construites actuellement ouvrent, le problème sera les professeurs. Vous avez compris? Les professeurs. Et un autre problème aussi, quand on réussit avec un certain niveau, avec une certaine moyenne, vous avez compris? Parce qu'avoir 15, 16, 18 à la troisième année, si on se retrouve avec, pour pouvoir avoir des financements, des aides, et qu'en dessous on vous dit, écoute mon gars, si tu n'as pas de bras longs, en quelque sorte tu ne passes pas, entre guillemets.
Il n'y a pas de favoritisme dans notre système. Que ce soit le public, tout est transparent. Vous êtes un bachelier. Pour être orienté, je le dis toujours aux jeunes qui viennent, qui râlent, qui disent non, vous nous envoyez dans le privé. Je lui dis non, il faut être bon.
Alors il y a un bachelier qui était orienté dans le privé, il voulait témoigner et son école a fait pression pour qu'il ne s'exprime pas. Je tiens quand même à le signaler, je ne vais pas citer son école. Il faut qu'on avance, 7 milliards de voisins, vous écoutez RFI, l'enseignement public, l'enseignement privé, qui doit payer? Évidemment ça pose de vraies questions, ce débat n'est pas nouveau, mais sauf qu'aujourd'hui avec l'explosion démographique, avec aussi l'offre qui se diversifie énormément et le secteur privé, le débat a beaucoup d'intérêt. On vous donne la parole dans quelques instants les jeunes.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Sylvie est avec nous. Bonjour Sylvie.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes étudiante, vous avez fini vos études?
J'ai fini mes études.
Oui.
D'après moi, la rigueur, la dynamique qu'il y a dans le public, on ne le trouve pas dans le privé, sincèrement. Je peux dire ça parce que j'ai eu à faire les deux. J'ai eu à côtoyer les deux milieux, donc je sais nettement ce qui s'y passe. Voilà, donc, dans le public, moi, je pense sincèrement qu'il y a plus de dynamique, plus de rigueur. Et quand on parle de qualité de l'enseignement, c'est la qualité haut de gamme, sincèrement. Par contre, dans le privé, il y a la rigueur. Par contre, ce qu'ils apprennent à l'étudiant, ils apprennent plus l'étudiant à se vendre, à être proactif, à se lancer dans l'entrepreneuriat, ce qui ne se fait pas dans le public. Et c'est vraiment dommage pour... Voilà.
Vous gardez un bon souvenir de vos études à Bombay?
Oui, clairement.
En termes d'enrichissement intellectuel, c'est ce
oui,
que vous voulez dire?
Oui,
et aujourd'hui,
clairement.
Qu'est-ce que vous faites? Et à qui vous le devez?
Je le dois à l'université de Bombay. En grande partie à l'université de Bombay, sincèrement.
Qu'est-ce que vous faites, Sylvie?
Je suis responsable chargée des affaires administratives. Voilà.
Bravo. Voilà.
Merci.
Bravo, Sylvie. Merci, en tout cas. Je sais que vous nous écoutez régulièrement.
Merci à vous.
Jamais vous ne vous êtes dit je suis dans une université de région, une université de seconde zone entre guillemets par rapport au grand campus de l'université Charanta Diop?
Non, pas du tout. Dès la première année, j'ai adoré, j'ai aimé l'environnement, le climat.
Mais vous n'aviez pas choisi Bombay. Vous avez été affecté par le logiciel.
Pas du tout. En ces temps-là, c'est l'étudiant même qui fait son choix, donc qui se dit que voilà, je vais aller à telle université et puis après.
Donc vous aviez choisi Bombay?
Oui, c'est moi-même qui ai choisi Bombay. Je voulais pas aller à UCAD parce que déjà c'était un peu instable et puis je trouvais que voilà, là où le campus était un peu éloigné de là où on faisait les cours, donc voilà.
Saliou Papa est à côté de vous, presque. Saliou Papa. Bonjour, Saliou Papa.
Bonjour Emmanuel, bonjour les 7 milliards de voisins.
Saliou Papa, vous avez testé le public, le privé, vous avez 25 ans.
Exact.
Master d'anglais à l'UCAD.
Exact.
Master en marketing et stratégie dans une école privée.
Exact.
Bourse d'excellence financée par une fondation espagnole.
Exact.
Waouh, on n'a que des très doués hein, aujourd'hui. Alors, quelle est votre perception des deux systèmes?
Déjà, merci beaucoup pour la question. Pour les deux systèmes, c'est vrai que j'ai eu à tester les deux. Donc déjà dans le public, j'ai eu à apprendre la patience. Déjà quand j'étais en première année, j'étais obligé d'aller au campus à 23h, de passer la nuit dans l'amphi pour pouvoir faire cours le lendemain à 8h. Parce que tu arrives à 6h30, tu peux t'asseoir à même les escaliers, tu es béni. Au cas échéant, tu restes derrière ou tu prends note.
À l'UCAD.
À l'UCAD.
85 000 étudiants, c'était prévu pour 20 000 au départ, il y a longtemps.
Et c'est ça, on a ça comme conséquence. À l'UQAD, dans le public, qu'est-ce qu'on a? On a des professeurs syndicalistes qui ont chaque année, qui présentent chaque année une plateforme revendicative renouvelée. Qu'est-ce qu'on a dans le public toujours? On a des professeurs qui sont là, qui vont faire cours dans les privés et qui ne viennent pas faire cours dans le public alors qu'ils sont payés. Vous avez des étudiants qui sont en Master 2, qui sont sur le point de soutenir leur mémoire et qui n'ont jamais eu une conversation avec un superviseur. Donc c'est la situation qu'on a. Alors maintenant, toutes ces conditions réunies là, je pense qu'on a un peu une idée de ce que le privé, de ce que le public, autant pour moi, va former après.
Et pour le privé?
Le privé, c'est vrai qu'on est en train de construire un business autour du privé, il faut le dire. Donc j'ai entendu tout à l'heure un des panélistes dire que pour la question des bacheliers qui ont été orientés dans le privé, on est en train de poser le débat, ce qui n'est pas le cas, je suis désolé. On a tous lu l'article la dernière fois du ministre de l'économie qui a dit qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses de l'État. Le premier ministre a dit qu'il y avait de l'argent dans les caisses de l'État, mais qu'il fallait décaisser de manière progressive. Il faut arrêter de nous servir ces discours-là. Je pense qu'il faut au moins respecter l'intelligence. Je pense qu'il faut au moins respecter l'intelligence des étudiants. Voilà, franchement. On est en train de construire un business autour du privé et il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas d'accréditation, ni d'accréditation annexe sup, ni la reconnaissance du CAMES. J'ai eu à fréquenter une école privée où je n'ai pas terminé l'année parce que j'étais responsable de ma classe. Les étudiants ont commencé à soulever cette question-là. J'ai voulu amener le débat au niveau de l'administration. On m'a dit, Job, non. C'est pas à toi de poser cette question.
C'est pas la question, mais il existe au Sénégal une autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur qui surveille les écoles, qui surveille les qualités des contenus qui sont dispensés et qui donne ou pas les accréditations quand même.
Oui, oui, c'est l'ANACSUP.
On n'ouvre pas une école comme une épicerie.
Oui, c'est vrai. Maintenant, ce qui est dommage, parce que quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, c'est que les nouveaux bacheliers ne sont pas orientés, ceux qui sont orientés dans le privé ne sont pas orientés dans des écoles qui n'ont pas la reconnaissance. Je suis désolé, mais ça existe. On voit des bacheliers qui sont orientés dans des écoles qui n'ont pas la reconnaissance.
Alors, quelle est la solution pour vous, Saliou Papa? Parce que vous cassez le privé, vous cassez le public.
Il faut, je pense que quelqu'un l'a dit, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de politique pour le moment. Quand même, on dit qu'un problème, autant pour moi, bien posé, est à moitié résolu. On n'a pas bien posé le problème, déjà, à la base. Il faudrait reposer, je pense, et voilà, reconsidérer les choses. On est en train d'évoluer avec le numérique et tout ça, mais ça va trop vite. Il y a beaucoup trop de choses à régler au niveau du public. Il faudrait revoir ça.
Revoir concrètement, c'est-à-dire comment l'État se prépare à ouvrir d'autres antennes, à, notamment à développer l'université virtuelle du Sénégal, d'autres antennes en région, notamment à Diamniadio, même si c'est vrai, les travaux ont pris du retard. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce que vous attendez précisément?
L'université virtuelle du Sénégal, c'est bien, mais il n'y a pas eu d'accompagnement. Donc toujours le même problème. Voilà, il y a des étudiants qui ont été orientés là-bas et qui n'ont jamais manipulé un ordinateur.
Mais il y a 70% de réussite en licence aujourd'hui à l'université virtuelle du Sénégal, c'est pas si mal.
Exactement, oui, on est d'accord avec le concept, parce qu'il y a eu, on a amené un professeur des États-Unis, du Canada autant pour moi, qui est venu réajuster les choses. Je suis d'accord, je pense que maintenant, ce qu'il faut comme solution, je disais tout à l'heure qu'il faut poser le problème. Je pense poser le problème, je comprends, je sous-entends, voilà, aller au sein même de l'université publique, des universités publiques, et voir carrément ce qui se passe, voir carrément ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est au niveau du système, c'est au niveau des filières qu'on a, et c'est au niveau aussi des professeurs.
Merci beaucoup, Saliou Papa, pour cette analyse. Marc-François Mignot, donc le président du groupe Galileo Global Education. Vous venez d'arriver, votre groupe vient d'arriver il y a un an et demi maintenant sur le continent africain avec le rachat de l'Institut supérieur de management. Comment, puisque vous ouvrez des campus partout, vous êtes présent dans 14 pays aujourd'hui, vous êtes en Chine, vous êtes au Mexique, vous êtes en Inde. Déjà, quel est le regard que vous portez sur la jeunesse sénégalaise? Ça nous intéresse d'avoir votre point de vue en tant qu'entrepreneur industriel de l'éducation comme vous vous présentez.
Alors d'abord, moi j'ai été vraiment positivement surpris lorsqu'on a discuté avec Amadou et que j'ai pu rencontrer beaucoup d'élèves
Amadou
de l'ISM.
Amadou Diaw, le fondateur de l'ISM.
Amadou Diaw, le fondateur de l'ISM. Et que j'ai pu rencontrer de nombreux jeunes qui faisaient des études à l'ISM par la qualité de la réflexion et par la profondeur de la réflexion. et notamment sur il n'y aura pas de solution simplement sur un pays, les solutions sont panafricaines, etc. J'avais des jeunes femmes en face de moi qui avaient une maturité que je ne trouve pas dans les jeunesses européennes. Probablement parce que les problèmes qu'on entend sont plus critiques et aiguisent cet esprit-là et cet esprit critique.
Et que vous évoquent les témoignages qu'on a entendus? Vous le voyez bien, on parle d'argent énormément.
Alors, il y a une chose très simple. Moi, privé, public, en Afrique, j'ai l'impression que c'est deux pêcheurs qui disent « moi je sors en premier, toi tu sors en second », qui discutent comme ça de savoir qui va sortir le premier du port pendant qu'il y a une vague de 40 mètres qui arrive à 100 km/h. Ce qui arrive, ce qui se passe, c'est un tsunami démographique. Et donc, on n'est pas en train de se dire si c'est le privé ou le public, tout ça, c'est des débats derrière.
On est d'accord, il y a de la place pour tout le monde. Mais les étudiants, c'est pas la question qui se pose pour les étudiants, c'est comment je vais payer mes études. Il y a de plus en plus de niches payantes dans les universités publiques. Vos tarifs ne sont pas à la portée d'une grande partie des étudiants. Vous allez probablement même les augmenter avec les futures formations que vous lancez. Donc j'aimerais avoir, quelle est votre vision politique, philosophique de... qui doit payer les études supérieures aujourd'hui?
Les études supérieures, c'est pour ça que je vous parlais du public ou du privé comme un vieux clivage idéologique qu'il faut rendre obsolète, parce qu'il l'est. Les études supérieures, elles ont un coût. Et donc, qu'elles soient financées par le public, donc par l'impôt, ou qu'elles soient financées par les familles qui payent en direct dans le privé, ce coût, il doit être payé quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de qualité sans coût au niveau éducatif.
Toute la question est de savoir si on scolarise des jeunes à prix coûtant ou à prix avec un bénéfice. Alors, pour l'entreprise.
Moi, je milite pour un statut d'intérêt général à profit limité. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des investisseurs qui viennent, notamment sur le continent africain, et que la part de valeur qui soit captée par les investisseurs ne soit pas trop importante, je prends un exemple très simple. Vous mettez 100 000 francs CFA dans un acte éducatif, les gens doivent savoir que seulement 10% peuvent remonter à l'actionnaire qui a pris le risque de créer le campus. Donc il faut faire des sociétés générales à profit limité, de façon à ce que le statut permette de limiter la rémunération des dirigeants et la remontée des profits pour l'actionnaire. Comme ça, il n'y aura plus de débat, c'est un business, bah, on est là pour...
D'accord, mais là, à l'heure actuelle, votre actionnaire principal, c'est un fonds d'investissement américain?
Non. Nous avons l'État français, notre capital.
Aussi,
la Banque
BPCI,
publique d'investissement, la Caisse des dépôts et consignations. Nous avons des investisseurs institutionnels, nous avons
mais
des fonds de
fonds. Mais les étudiants sénégalais se posent la question, est-ce qu'il est normal que mon argent serve à faire des profits pour un fonds d'investissement américain?
Alors,
voilà la question qu'ils peuvent se poser.
Si vous voulez le résumer, alors que je vous dis qu'à notre capital, il y a bien d'autres personnes que des fonds, moi je vous dis qu'il faut trouver de l'argent.
Il y a la famille Bettencourt aussi, la famille L'Oréal, leader mondial des cosmétiques, mais c'est
mais
toujours
si
le même problème.
Trouver, si vous voulez trouver de l'argent pour financer l'éducation, vous pouvez avoir une opinion politique sur le fait que des grands acteurs industriels, publics et financeurs viennent apporter leur concours pour faire des structures d'éducation en Afrique.
Mais avec un retour sur investissement.
Et moi, je vous réponds que je milite pour ce statut d'intérêt général à profit limité, de façon à ce qu'il y ait plus débat. Parce qu'il y a, moi, je suis allé voir la plupart des financiers du monde entier. Tout le monde comprend que l'Afrique est à la fois le berceau de l'humanité, mais aussi son futur. Il n'y a personne, n'imaginez pas que vous êtes seul sur un continent, il n'y a personne dans le reste du monde qui ne le voit pas. Et je vous parle de centaines de milliards d'euros de gens qui sont prêts à investir. Effectivement, ils veulent qu'il y ait une responsabilité sociétale qui soit inclue dans l'acte éducatif. Je milite pour cela et nous y arriverons parce que c'est le sens de l'histoire. Par contre, il faut des moyens pour faire de l'éducation. Et ces moyens, ils doivent arriver. Et comment on paye? Eh bien, on peut avoir une multilatéralité des couches de financement. Celui qui peut payer, il paye un peu. Avec les familles qui aident. Le gouvernement qui aide quand il propose justement de flécher intelligemment un certain nombre de bacheliers dans le privé. Il faut des régulations fortes par l'État et ensuite il faut accumuler les strates de financement. Il y a une remarquable initiative qui s'appelle l'ALU, African Leadership University, qui dit bon, vous allez être formé par l'université qui est privée et puis ensuite, c'est pas un emprunt, vous allez
pendant les 10 ans qui suivent, redonner une partie du salaire que vous allez toucher, 10%. Si vous gagnez beaucoup d'argent, ben vous donnerez, ce sera 10% de beaucoup. Si vous gagnez peu, ce sera 10% d'un peu. C'est l'ensemble de ces solutions, les États, les investisseurs privés, publics, institutionnels, les banques de développement, on doit se retrouver autour de la table, non pas pour financer des institutions, mais pour financer des jeunes. Parce que c'est eux qui vont choisir où ils vont aller, et ce sont des trajectoires d'étudiants qu'il faut financer.
Éric Pignot, j'imagine que vous êtes d'accord avec ces montages financiers, des montages financiers qui pourraient finalement éviter de se retrouver dans de vraies situations d'injustice sociale, pour ne pas parler d'explosion sociale possible.
Enco Education, c'est une entreprise avec une vocation éminemment sociale. Notre ambition a toujours été de développer une éducation de qualité et de l'amener au plus grand nombre. Lorsqu'on a démarré Enco Education, on s'est beaucoup posé la question de quel était le bon modèle. On s'est demandé, est-ce qu'on ne ferait pas une école à but non lucratif? Et ensuite, on essaiera d'en faire une deuxième. Et on s'est rendu compte que pour cela, il fallait accepter, il fallait se débrouiller pour que des gens acceptent de nous donner de l'argent, de nous faire des subventions. Le modèle alternatif, c'est de concevoir un modèle qui allie qualité et rentabilité. C'est-à-dire qu'on apporte le bon niveau d'éducation, la bonne qualité pour des frais de scolarité donnés. Et ensuite, parce que l'école est rentable, on va pouvoir réinvestir cette somme pour créer une autre école, et une autre, et une autre. Donc aujourd'hui, nous, notre ambition à Enco Education, c'est d'apporter une réponse globale à l'échelle du continent. Aujourd'hui, on veut développer une cinquantaine d'écoles dans une vingtaine de pays, mais même en faisant cela, on n'est pas du tout à la mesure de l'enjeu. Le modèle rentable va permettre d'attirer des investisseurs et d'avoir un impact beaucoup plus global. Donc ça, je pense que c'est une des forces du privé, c'est de pouvoir attirer ces investissements. Après, évidemment, ce qui est très important et ce que le privé devra toujours démontrer, c'est son attachement sans faille à la qualité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, à Enco Education, on investit énormément. Alors, je voudrais parler, par exemple, de nos programmes de formation. Chacun de nos enseignants reçoit chaque année une centaine d'heures de formation pour les accompagner à découvrir nos nouveaux curriculums, pour améliorer leurs approches à l'apprentissage et à l'enseignement, pour que nos enseignants deviennent d'excellents enseignants. Voilà, donc si on arrive à avoir à équilibrer cette équation qualité-rentabilité, je pense qu'on peut avoir une solution qui soit excellente pour les élèves et qui permette également d'avoir un impact global à la mesure de l'enjeu.
Aujourd'hui, vous avez une politique de bourse qui est assez classique dans vos lycées?
Alors, classique, je ne sais pas. Enfin, j'espère que si c'est classique, c'est une bonne nouvelle, je pense. Mais nous, on a une politique, en fait, 10% de nos élèves à l'échelle du groupe, donc ça fait 200 élèves aujourd'hui, et puis j'espère beaucoup plus demain, qui reçoivent des bourses, avec ce système un petit peu que décrivait Marc-François, où ceux qui peuvent payer payent les frais de scolarité, et ensuite, on a des approches pour aller identifier des élèves qui sont talentueux, hein, c'est vrai que c'est un système de bourse au mérite, qui sont talentueux mais qui sont défavorisés, et donc on identifie ces élèves et ensuite on les accompagne pour qu'ils reçoivent la même éducation que tous les autres.
Ami Doudia, vous souhaitez réagir, Sengan Bodj aussi.
Oui, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur le contexte. On est au Sénégal, vous avez entre 37 et 47% des enfants en âge d'aller à l'école qui ne sont pas dans nos institutions scolaires. Vous êtes dans un contexte de pauvreté et d'inégalité forte. Vous ne pouvez pas dire que le clivage public-privé n'a pas de sens. Donc, il est important, et ça c'est le rôle de l'État, que l'État intervienne plus fortement pour prendre en charge toutes ces préoccupations. Parce qu'on parle souvent de problèmes de moyens. Eh bien, quand l'État peut donner 16 milliards à des privés, c'est qu'il peut donner 16 milliards aussi à l'enseignement public. Davantage, investir davantage dans le public.
Avec quelle efficacité dans le public? C'est toute la question que posent les écoles privées.
Alors,
24 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on a pour 24 millions d'euros dans une université publique?
Voilà. Alors, moi, j'ai entendu dire par un responsable d'une institution privée que pour construire une université privée, on a besoin de 7 milliards. Alors, si des gens peuvent trouver des moyens pour créer des universités privées, et moi je suis pour qu'on laisse la place à l'initiative privée quand elle a les moyens de s'exprimer, parce qu'on n'est plus dans un contexte où on va dire que c'est l'État qui fait tout. D'accord, ceux qui veulent faire de l'entrepreneuriat éducatif. Il faut qu'on leur donne les moyens de le faire, mais encore une fois, l'État doit investir dans le public, créer des institutions fortes, parce qu'on n'a pas encore assez d'élèves dans les écoles, on n'a pas encore assez d'étudiants dans les universités. Il faut des institutions publiques fortes. C'est avec ces institutions publiques fortes que nous allons construire le Sénégal, bien sûr avec la contribution du privé. Mais il ne faut pas laisser prospérer ce discours qui dit que bon, les clivages n'ont pas de sens. Parce que si on dit que les clivages n'ont pas de sens, on dit que bon, chacun peut y aller. Et là, c'est la loi du plus fort.
Marc-François Mignot-Mahon.
Oui, je voudrais réagir au propos de mon camarade sociologue. Je ne suis pas d'accord avec l'assertion qui dit il faut des institutions publiques fortes et pas des institutions privées fortes, parce que ça n'a pas d'intérêt public ou privé. Ce qui a d'intérêt,
je
c'est
pas dit ça, hein, je suis pas d'accord.
Ce qui est l'intérêt, c'est l'intérêt général. Ce qui est sûr qui doit relever de la puissance publique, c'est-à-dire de l'État, c'est la régulation. Pour être certain que les institutions qui délivrent, qu'elles soient publiques ou privées, on s'en fiche. Que l'éducation qui est délivrée soit de qualité. Ça, c'est la vision d'un État. Et c'est ce que les citoyens et les jeunes bacheliers sénégalais attendent de leur État. Après, c'est une question d'exécution. Si les institutions, qu'elles soient privées ou publiques, font bien leur métier, ce dont on parle, c'est uniquement du financement et une vision moderne. Et qui permettra d'absorber le défi démographique africain et sénégalais, c'est une vision qui dit l'État a une vision de ce que les entreprises doivent avoir comme job, comment nous devons former et comment nous devons réguler les acteurs de la formation, et ensuite on va financer des bacheliers, pas des institutions. Les bacheliers sont largement assez intelligents pour savoir dans quelles institutions ils veulent aller.
Ceux qui grandissent dans une famille qui les aide et qui les aide à s'informer.
Mais l'État doit les aider à s'orienter, l'État doit réguler. Ça, la puissance publique, on est tous d'accord là-dessus. C'est un métier qui doit être profondément régulé. Mais l'opération, l'acte éducatif, qu'il soit privé ou public, ça n'a plus d'importance.
Alors, Je reprécise ma pensée.
Rapidement, il nous reste quelques minutes. On va donner la parole aux jeunes aussi.
L'État ne doit pas se dédouaner de ses responsabilités éducatives. D'accord, si le privé veut contribuer, mais justement qu'il se donne les moyens de le faire, et l'État lui l'aide à le faire aussi. Mais il ne faut pas oublier, le cœur, c'est la mission de service public, elle est portée en premier par l'État.
Les auditeurs dans la salle, qui veut réagir? Meymouna, Agnès?
Oui, moi c'est Meymouna, pas Agnès.
Oui,
Agnès
et Meymouna, soyez la bienvenue.
Bonjour à tout le monde, je suis très ravie d'être ici. Alors, moi j'ai eu une formation en philosophie, j'ai choisi par amour, on va dire. Donc là, je suis diplômée d'un master en philosophie. Et je compte continuer des études, mais dans un autre domaine qui malheureusement n'est pas proposé par mon université. Et je ne suis pas très pro privé.
Dans quel domaine vous voulez étudier, Meymouna?
Par rapport à mon mémoire de master, moi je suis orientée vers la théologie. Donc là, la théologie, un département de théologie à proprement dit, ça n'existe pas à l'université, ce qui pose encore le problème du manque de diversité en fait dans les matières proposées. Il en a parlé un peu tout à l'heure, le monsieur au bout. Voilà, monsieur Diop.
Déjà, alors, qu'on dit que les philosophes sont voués au chômage, alors les théologiens,
voilà,
je ne sais
pas.
Voilà, soit
au chômage ou bien à l'enseignement. Hein, oui. Parce qu'ici, dans la conscience populaire, quand on fait philosophie, c'est juste pour aller enseigner dans un lycée. Mmh. On ne peut pas faire autre chose, juste enseigner. Alors,
vous dites quoi, là, aujourd'hui, dans ce débat?
Alors, moi, dans ce débat, pour ce qui concerne déjà le débat privé et public, j'aimerais attirer l'attention sur une chose très importante qui me tient à cœur. C'est qu'en fait, quand on dit que l'objectif, la principale objectif du millénaire aujourd'hui, c'est l'éducation pour tous, ce serait bien aussi que cette éducation, elle prenne en compte le fait que les personnes, elles désirent faire une chose, mener une telle étude et pas une autre. Et c'est un débat qui se pose aujourd'hui au Sénégal, parce que moi je trouve, excusez-moi, que c'est pas très respectueux d'amener des étudiants de force, entre guillemets, parce qu'on ne les a pas tirés, mais ils n'ont pas trop le choix non plus, de les amener dans le privé pour les y inscrire parce qu'ils n'ont pas de place dans le public, alors que les matières que ces étudiants...
Que certains sont contents, mais certains ne sont pas contents. Ils voulaient aller dans le public.
La plupart ne sont pas contents. Ceux qui sont contents, on les compte sur 100 pour ne pas entrer dans des statistiques que je n'ai pas à ma possession. Mais d'après le vécu qu'on en a,
ils sont affectés dans des écoles qui coûtent 3 fois le prix, enfin qui coûtent, eux ne payent rien, hein, on est d'accord.
Oui, mais le problème, c'est pas de ne pas payer. Pas en fait. Moi, Emmanuel, aujourd'hui, vous me dites d'aller à l'IAM, qui est une école assez prestigieuse, que je respecte.
Dont le directeur est candidat à la présidence. De la République.
Voilà. D'aller à l'IAM pour y faire des études et de ne pas avoir été à l'université, j'aurais dit non. Parce que ça ne m'intéresse pas, l'IAM.
Ouais, vous voulez faire de la philo, donc vous voulez rester à l'UQAD.
Voilà. Donc il y a des gens comme moi, il y a des personnes, des étudiants comme moi qui n'ont pas eu ce choix parce que l'université leur a fermé ses portes. Alors moi, ce que je proposerais, c'est surtout d'investir aujourd'hui, comme monsieur le sociologue l'a dit, de surtout mettre en exergue l'enseignement dans le public, parce que la première essence, c'est le public aujourd'hui. Que ce soit de l'élémentaire jusqu'à l'université aujourd'hui, le privé se pose comme quelque chose qui est là pour un peu se substituer, excusez-moi, au public. Mais le public, c'est le premier choix en fait de l'étudiant sénégalais. Qu'on se l'avoue ou pas, le public, c'est le premier choix de la plupart des étudiants sénégalais. Donc, pour certains, ils sont en détresse quand on leur ferme les portes.
Sylvie veut réagir.
Les étudiants qui sont dans le privé, d'après moi, ils doivent s'estimer heureux. Auparavant, ce qui allait dans le privé, c'était, je dis n'importe quoi, c'était les enfants des parents aisés. D'accord ? Maintenant, s'ils ont la chance d'aller dans le privé, ils doivent s'estimer heureux. Après tout, l'État te paye la moitié, et puis toi, tu payes la moitié. Que demander de plus, sincèrement? Et puis, en plus de cela, il y a l'enseignement de qualité qu'on y trouve. Donc, pourquoi se dire que non, moi, je vais aller dans le public? J'ai dit tantôt, les deux se complètent, en fait.
Quand vous voulez dire de qualité, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de calendrier universitaire décalé, c'est ce que vous voulez dire, en fait,
pas
essentiellement.
Du tout. En plus,
parce qu'il y a des professeurs de grande qualité dans les universités sénégalaises.
C'est ça, il y a un enseignement de qualité, voilà.
Bon, mais donc...
Peut-être, j'ai dit, ce qu'on ne trouve pas dans le privé, c'est la dynamique et la rigueur. D'accord, mais tout le reste, sincèrement, moi je vous dis qu'à notre temps, si on avait la chance d'aller dans le privé, bah, c'est peut-être pas, pourquoi pas.
Le mot de la fin, bon, alors...
Excusez-moi Emmanuel, juste pour répondre à Sylvie, moi je vois pas que ce soit une chance de demander à quelqu'un qui n'a pas envie d'aller étudier management de le faire. C'est pas parce qu'il y a un climat stable, c'est pas parce qu'il n'y a pas de grève. Bah, déjà, posons-nous les questions, pourquoi il y a des grèves à l'université publique? Pourquoi? Parce que si l'université publique était encadrée comme il faut, il n'y aurait pas de grève. On ne fait pas les grèves là-bas pour le plaisir. Qui aime perdre son temps à aller faire des grèves? En 2012, lors des élections présidentielles, l'université a passé plus de 3 mois, Sylvie, sans étudier carrément. Moi, mon père, il m'avait carrément amené, parce que mes parents vivent dans le sud, il m'a envoyé un billet, je suis allée m'asseoir, j'étais en grandes vacances en fait. Les grandes vacances, c'est 3 mois. J'ai passé 3 mois à la maison, ça s'est stabilisé après les élections et je suis revenue. Pendant ce temps, les élèves du privé, eux, ils allaient en cours. Pourquoi le public a été si perturbé? Parce que comme il le disait tout à l'heure, il y a les syndicats, il y a tout, ce qui ne concerne en rien le privé, vous voyez? Donc du coup, les étudiants du public sont quelque part victimes de ce système qui leur est tombé dessus parce que quoi, il y a le sigle public sur leur tête. Ce n'est pas privé. Et c'est malheureusement ce qui amène toute cette gangrène. Et comme ils le disent, ça ne devrait pas être le cas.
Merci à vous tous, les étudiants, les jeunes. On va laisser le mot de la fin à nos invités. Un mot de conclusion, Hamidou Dia.
Alors, y a une question qui a été soulevée qui est très importante, celle de la paix dans les établissements d'enseignement supérieur. Vous savez, quand vous prenez les statistiques, au Sénégal, entre 1968 et 1998, il y a eu 30 grèves qui ont duré au moins un mois. 30 grèves. Et il y a eu des années phares, 98, de 88, 1977-1968, où il y a eu quasiment... il y a eu même une année blanche et une année invalidée. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on se ressaisisse tous au Sénégal, qu'on se dise que l'éducation, c'est important, c'est le cœur du développement, et que l'État doit y mettre les moyens, et maintenant que tous les acteurs aussi prennent conscience de la nécessité de la faire fonctionner. Et bien sûr, nous félicitons les gens du privé qui apportent leur part de contribution. Je pense notamment au doyen Diaw, et qu'il y ait beaucoup de doyen Diaw au Sénégal. Voilà.
Senghambodj, voilà, merci, du ministère de l'enseignement supérieur.
Voilà, merci. En conclusion, je vais simplement dire que public-privé, c'est ni concurrence, ni antagonisme, mais plutôt c'est une complémentarité. L'État veille, avec sa vision, on a mis en place un mécanisme pour qu'il y ait un équilibre entre les deux systèmes.
Éric Pignot, en même temps, le débat, il était là quand même, hein, il n'a pas été évité.
Le débat est ouvert, ne va pas se refermer de sitôt. Peut-être je voulais réagir à une remarque de la jeune femme qui faisait part de sa crainte que le privé se substitue au public. Et moi, fondamentalement, je pense que surtout pas, le privé ne doit pas, ne peut pas se substituer au public. Les enjeux sont complètement différents. Le public doit lever la barre, doit permettre d'avoir une éducation universelle le plus large possible. Et le privé doit permettre d'offrir du choix, un choix complémentaire aux étudiants, aux élèves. Des parents qui viennent nous voir, par exemple, à une coéducation, recherchent une éducation holistique, centrée sur l'élève, multiculturelle, bilingue. D'autres parents souhaitent que les études de leurs enfants s'inscrivent dans un contexte religieux, qui peut être musulman, catholique. Et bien, je pense que ce choix, c'est quelque chose que le privé peut apporter. Et pour cela, c'est sain qu'il y ait des établissements privés également, au-delà de ce que fait le public.
Marc-François Mignot-Mahon, du groupe Galiléo.
Je ne peux pas être plus d'accord avec mon voisin directeur de l'enseignement supérieur privé au Sénégal. Il n'y a pas d'antagonisme entre public et privé, il n'y a même plus de frontières, il faut qu'on regarde l'intérêt général. L'intérêt général, il n'y en a qu'un seul, c'est éduquer nos enfants le mieux possible et on a besoin de tout le monde et surtout pas de s'opposer les uns les autres parce que le défi qui est devant nous est le plus grand défi que l'histoire de l'humanité a jamais eu à affronter. En 6500 ans, l'humanité a mis 6500 ans, si on prend la Mésopotamie comme début, pour mettre 200 millions de jeunes dans l'enseignement supérieur. En une génération, en 25 ans, il faudra en mettre 400 millions. On ne sera jamais assez nombreux pour résoudre cette mission d'intérêt général.
Eh bien, merci à vous tous. C'était le mot de la fin. Merci à vous, les étudiants, pour vos contributions. Je suis désolée, on n'a pas pu donner la parole à tous les jeunes qui voulaient s'exprimer. Merci à vous, Senghambodj, Hamidou Dia, Marc-François Mignot-Mahon et Éric Pignot. Lundi, nous serons à l'université Alioune Diop de Bambay, à 120 km de Dakar, avec des entrepreneurs, des entrepreneuses qui vont raconter leur parcours et surtout les difficultés qu'ils ont surmontées. Et ils dialogueront avec les étudiants sur les conditions de réussite, sur la confiance en soi pour trouver sa place sur le marché du travail et puis créer éventuellement son propre emploi. D'ici là, on se retrouve bien sûr sur Facebook, Instagram pour des rencontres en vidéo. Ne les manquez pas. Merci à vous tous, les voisins et les voisines. Merci. Et pour votre accueil à Dakar également, dans quelques instants, le journal sur RFI.
Tout le monde est voisin.
On est ensemble.
7 milliards de voisins. C'est fini.